بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جزاك الله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو les croyants craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Nous avons lu ce soir ce verset de la sourate Ali Imran. Sourate Ali Imran que nous avons complété ce soir, bi'idhnillah. C'est-à-dire là, on a complété deux des plus grands chapitres, deux des plus grands sourates du Coran, Al-Baqarah et Ali Imran. Et vous vous rappelez, tous les ans, on dit, voyez les sourates qui défilent, les joies qui passent, ça va aller très vite. Dans quelques temps, Inch'Allah, on sera en train de parler du 15e juz, du 20e, mais on sera bientôt vers la fin. Il faut vraiment profiter du moment présent. Il faut profiter de ces joies de Ramadan. Il ne faut surtout pas voir ces joies comme un fardeau, comme on a dit au début. Mais l'autre phénomène qui se produit parfois, c'est que quand on a passé le cap de la familiarisation, avec les ayam Ramadan, il y a un autre état d'esprit parfois qui s'installe, c'est la lassitude. C'est-à-dire qu'on enchaîne. On vient à la mosquée, on fait le tarawih, on rentre, on jeûne, on fait le suhur, le iftar. Ça devient comme une routine. Ça ne doit surtout pas devenir comme une routine. Tout comme au début, ça ne doit pas être un fardeau. Mais quand on s'est familiarisé avec les a'mal, avec l'action, ça ne doit pas non plus au bout de 10 jours devenir une routine. Parce que chaque jour, kullu yawm, chaque jour qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde durant ce mois béni, c'est un cadeau de la part d'Allah Azza wa Jal. Chaque jour vécu, c'est un cadeau de la part d'Allah Azza wa Jal. Et selon moi, Wallahu A'lam, il n'y a pas meilleur moyen de rester connecté sur le plan spirituel, de se ressourcer en permanence, de réactualiser sa foi et ses connaissances religieuses que par l'étude des versets du Coran. Sachant que nous consacrons nos soirées. Regardez quelle heure il est, subhanallah, on a été encore plus long que d'habitude ce soir. On a terminé à 21h10 à peu près. C'est-à-dire qu'on consacre 1h30, 2h de nos soirées pour la lecture du Coran. Il serait tellement bien d'avoir une approche du sens des versets, parce qu'il n'y a rien de mieux pour booster, excusez-moi l'expression, pour augmenter, pour fortifier sa foi. Et nous vivons une époque extrêmement compliquée, avec beaucoup de péchés, beaucoup de fitaines, beaucoup d'invitations vers la débauche, vers ce qui est mauvais, et c'est uniquement la parole d'Allah Azza wa Jal qui peut nous protéger. Vous vous rappelez, on avait dit au début, dans l'étude du verset sur le Ramadan, que l'objectif essentiel du jeûne, c'était la'allakum tattaqoun, parvenir à la piété. Maintenant, la piété, c'est un vaste concept. Est-ce que la piété, c'est juste un vœu du cœur, dire que je suis quelqu'un de bien, j'aime mon Seigneur, je crains mon Seigneur, ou alors il y a quelque chose en plus qu'on doit essayer de vivre à travers cette piété? C'est en étudiant chaque verset où il y a « Ya ayyuhalladhina amanuttaqullah ». Chaque verset qui commence par « Ya ayyuhalladhina amanuttaqullah », ça nous donne un aperçu du sens profond de la taqwa. Et là, dans le verset numéro 102 de la sourate Ali Imran, nous avons ce message de notre Seigneur. Oh, les croyants, craignez Allah comme il doit être craint. Et ça nous intéresse. Comme il doit être craint. Parce que tout le monde dit, non, moi je crains Dieu. Je crains Allah, je ne peux pas faire telle chose. Mais tu crains Allah jusqu'à quel point? Jusqu'à quelle limite? Et quelles sont tes limites à toi? Jusqu'à quand tu peux dire, j'ai la crainte d'Allah? Et à partir de quand tu te dis que non, là c'est mon droit, na'oud billah. Et à partir de quel moment tu te dis que non, là, il n'y a pas le choix, je fais ce que j'ai à faire, autrement je ne m'en sors pas de la vie. Autrement j'aurai jamais un boulot, autrement j'aurai jamais une épouse, ainsi de suite. Donc là, à un certain moment, je peux dépasser les limites de la piété. Il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire qu'on a besoin de bien voir c'est quoi les limites de la taqwa. Ibn Kathir, rahimahullah, dans ce verset, taqullaha haqqa tuqati, qal, il donne 1, 2, 3 éléments qui nous font comprendre le sens profond, intérieur de la piété. Là, on ne parle pas du gestuel de la prière ou autre chose. On parle vraiment de ta relation, de ta conception, de ton rapport avec ton Seigneur au fond de ton cœur. Et au fond de ton cœur, personne ne peut y aller. Personne ne peut scruter ton cœur pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Personne ne peut dédier ce qu'il y a dedans. Personne ne peut juger non plus. Ça, c'est entre toi et Allah Azza wa Jal. Allah est le seul qui voit, faisant en sorte que ce qui est visible, ce qu'Allah voit, et Allah voit ce qu'il y a dans le cœur, que ce soit quelque chose de pur et de propre. Et que ce qu'il y a comme gestuel, ce qu'il y a comme a'mal à l'extérieur, ça reflète vraiment ce qu'il y a de pur dans ce cœur. Donc, on veut savoir, ça veut dire quoi ? Comme il doit être craint. Comment est-ce qu'on doit craindre Allah ? C'est ça la grande question. Quatre éléments avancés par Ibn Kathir, rahimahullah. Premièrement, qu'on obéisse à Allah et que jamais on ne le désobéisse. Obéir à Allah et ne jamais le désobéir. Et ça, cette qualité-là, c'est une qualité qui est propre, qui est intrinsèque aux croyants. Et c'est une qualité qui doit être mustamir, qui doit être permanente en nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui se décide dans une période de l'année, ça peut être le Ramadan ou pendant le Hajj ou quelle que soit la période, que là, je fais Ita'a, j'obéis mon Seigneur et je ne le désobéis pas. Et une autre période, après un cycle, je retourne vers la désobéissance de mon Seigneur et je ne l'obéis plus. C'est incohérent. C'est incohérent. Et le musulman, le mu'min ne peut pas être incohérent. Il faut qu'il y ait un juste milieu, il faut qu'il y ait une certaine logique. Il a une vision des choses. Et s'il se décide de ne jamais désobéir à Allah Azza wa Jal, c'est parce qu'il sait l'importance de l'obéissance à Allah et il sait également les conséquences de la désobéissance. Ça, c'est ce qu'on appelle un croyant intelligent. Tout se passe au niveau de son cœur. Et vous savez, si on a pu régler ce cœur, on devient quelqu'un de bien. On devient, je ne dis pas comme les sahabas, mais voyez l'exemple des sahabas, c'était les gens qui avaient le cœur le plus pur, sincère. La foi s'était installée de façon ferme, solide et sûre de leur qalb, de leur cœur. Donc, « أَنْ يُطَعَ فَلَا يُعْصَى » premièrement. « وَأَنْ يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى » que tu penses toujours à Allah et que tu ne l'oublies jamais. Penser toujours à Allah. C'est-à-dire quoi penser toujours à Allah ? C'est pas forcément faire le dhikr, subhanallah, alhamdulillah. Une personne peut faire le dhikr 10 minutes par jour de façon intensive. Il le fait, il lit tout. Et le reste de la journée, il oublie son Seigneur. Est-ce que l'objectif est atteint ? Le but n'est pas de prendre les... Comment vous appelez ça, vous ? C'est tellement bien marré, vous direz, personne ne l'utilise pas. Les sabbaha, les tasbih, il n'y a même pas de tirène. Le but, ce n'est pas de les faire tourner, tac, 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 toute la journée. Et après le reste du temps, on oublie Allah, Azza wa Jalla, wallah. J'ai chez moi des tasbih que j'ai en cadeau, avec des hauts dignitaires, subhanallah. Je ne peux pas vous dire le prix d'un tasbih, c'est presque des pierres précieuses. Et c'est la mode parfois. Parfois des jeunes, des shababs, on avait dit ça une fois, ils ont de beaux tasbih avec des pierres, et c'est presque comme un ornement. Mais il n'y a pas de dhikr derrière ça. C'est quoi ? Le but, c'est juste d'avoir un beau tasbih, tu fais tourner comme un lasso, et après tu laves. C'est le style. Pas besoin de style. Le but n'est pas de consacrer, même si on a consacré du temps, allez, je reviens, des choses plus sérieuses, plus spirituelles, même si tous les matins, quelqu'un se dit que je fais 30 minutes de dhikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, le quatrième kalima, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, il subhanallah, il bihamdi, subhanallah, il'azim, la ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu min al-zalimin, astaghfirullah, rabbi, min kulli dhanbin, wa atubu ilayh. Il lit tout ça 100 fois. N'est-ce pas là les meilleurs des adhkars, sans le moindre doute. Quelqu'un qui lit tous ses adhkars 30 minutes le matin, subhanallah, il est en train de se booster le iman, il se prépare spirituellement, et là, quelles que soient les situations de la journée, normalement, il a eu une pensée d'Allah, c'est comme si il a fait le plein. Hein, Shafi ? Si tous les matins, tu passes à la station, tu fais le plein. Pas de problème. Peu monte silos, descend salazi et tout. Tout correct. Oui, non. Tu fais le plein de dhikr le matin. C'est excellent. Maintenant, là où ce serait paradoxal, là où ce serait incohérent, c'est que le croyant fasse le dhikrullah et à un moment donné, et que le reste de la journée, il passe dans le rafla de l'insouciance. Ça veut dire quoi de l'insouciance? C'est pas uniquement l'insouciance que tu ne penses, tu ne fais plus le vikr. Non, quelqu'un est pris dans son travail, il est concentré dans ce qu'il est en train de faire, il est en train de rédiger un texte ou autre chose. Normal qu'il ne va pas faire le vikr en même temps. Mais la pensée permanente d'Allah, c'est ne jamais oublier le regard d'Allah sur toi. Ne jamais oublier le regard d'Allah sur nous. Ce qui veut dire que quand tu es exposé à un péché, quand il y a une situation de haram qui vient vers toi. Et nous vivons une époque où c'est le haram qui vient vers toi. Il n'y a plus besoin d'aller chercher le haram. Je donnerai juste l'exemple de l'adultère, du zina, parce que là on est entre des bonhommes, donc on se comprend. Et ce fut une époque où, pour avoir une aventure, comme on dit, bon ça c'est des termes de vieux, mais on reste respectueux, il fallait chercher sa proie. Il fallait draguer, il fallait faire en sorte que trouver la fille, ainsi de suite. Nous, nos jours, il n'y a plus besoin de tout ça. Le fitna est devenu tellement âme que le fitna vient à tes pieds, vient à ta porte. Et donc, ce n'est pas pour rien si dans hadith, on revient souvent à ce hadith, quand le prophète dit parmi les personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, Azza wa Jal, yawma la dhilla illa dhillu, un jeune, Shahab, non, pas celui-là, pas Shahab, Nashafi ta'atillah, une personne qui reçoit les avances d'une femme, qui est belle, une femme qui a de l'importance de la société, de haute lignée, comme on pourrait dire, et il refuse par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est une action magnifique, une action exceptionnelle. Ça, c'est manifestation de la foi. Le dhikrullah, c'est le muraqabatullah, la pensée d'Allah Azza wa Jal. À aucun moment, tu fermes la porte entre toi et Allah. Regarde cette image à l'esprit, c'est comme si on a une porte qu'on a grande ouverte entre nous et notre Seigneur. Jamais on ferme la porte. Donc on est certain, persuadé qu'à chaque instant, Allah nous voit. Ça, c'est les qualités d'un musulman. Et vous savez, cette qualité-là, tu le vis dans le Ramadan, et si tu l'as vraiment acquis, tu le gardes toute l'année. Parce que ça, ce sont des qualités intérieures. On ne change pas l'intérieur. Le cœur, quand quelque chose qui est bien dans le cœur, il change pas par saison. C'est pas comme les actions. Là, je fais varakat tarawih, au mois de Shawwal, je ne fais plus. C'est-à-dire qu'il y a un gestuel qui ne se retrouvera plus par la suite. Ça arrive. Mais quand il y a quelque chose qui est ancré dans le cœur, ça reste, inshallah. Donc, ce sont les qualités que nous avons besoin de développer. Comme les qualités, en yuta'a fala yu'sa, qu'on obéisse à Allah, qu'on ne le désobéisse pas. Ou en yuzkara fala yunsa, qu'on pense à Allah et qu'on ne l'oublie jamais. Wa an yushkara fala yukfar. Et qu'on soit toujours reconnaissant et que jamais on ne fait preuve d'ingratitude. C'est quoi l'ingratitude? L'ingratitude, ce n'est pas uniquement par rapport à ce qu'Allah t'a accordé qui est différent de ce que les autres ils peuvent avoir. Par exemple, tu as un meilleur travail, tu as un meilleur salaire, ou tu as une situation professionnelle ou financière plus avantageuse que les autres. Ce n'est pas uniquement ça, les faveurs qu'Allah t'a accordées. Et être ingrat, ce n'est pas désobéir alors que tu as autant de choses. Être ingrat, c'est déjà ne pas être reconnaissant par rapport au ni'ma basique, la foi, la santé, le fait d'être autonome, mobile, tu peux te déplacer, on est dépendant de personne. Tout ça, ce sont des ni'am, des bienfaits. Les jours de Qiyama nous seront questionnés. Kullu ulaika kana anhu mas'oula. Nous serons questionnés à propos de tous ces bienfaits. Thumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Chaque bienfait qu'Allah nous accorde, nous aurons des comptes à rendre. Donc, wa an yushkara fala yukfar, que nous soyons toujours reconnaissants pour tout ce qu'Allah nous a accordé et qu'on ne fasse jamais preuve d'ingratitude. L'ingratitude, ce serait d'utiliser les bienfaits qu'Allah nous a accordé dans le péché. D'un exemple, un exemple basique, mais excusez-moi, c'est au ras des pâquerettes. Un jeune homme de 18 ans, il vient d'avoir son permis, content. Et bien sûr, la première voiture qu'il achète, c'est quoi? C'est une Seat. Oui, non? Bien, c'est normal ça, ça c'est dans la logique. Donc, il a économisé, il a fait doua, il a été voir Fundi, il a été voir telle personne, il fait doua, je vais passer mon permis, je vais réussir. Eh, tout le monde fait doua, d'accord. Qui réussit, qui a son permis. Et il a dit à la fenêtre, en ce cas, j'ai mon permis, je vais amener ma maman faire les courses, je vais amener ma grand-mère à l'hôpital. Mais ça, il dit, Là, ces jeunes-là, hein, ils sont incroyables. Ils ont plein de bonnes intentions. Quand grand-mère a besoin d'aller à l'hôpital, on va là. C'est moi qui l'emmène, je l'attends. Maman, je l'emmène courage, je vais porter ses courses, je mets dans le coffre. Tout ça, n'oublie pas. Donc, tu participes aussi parce qu'il y aura un retour de bénéfices pour vous tous. Maintenant, il a obtenu ce permis. Ça, c'est un exemple basique. Hein, et à partir de ça, par analogie, on va calquer sur les choses qui sont plus proches de nous. La foi, la santé et tout ce qu'on a dit. Mais voyons un exemple avec un élément extérieur que nous constatons. Donc là, il a ce permis. Au lieu de faire toutes ces bonnes choses, ben, samedi soir, il prend sa voiture et il va. La villa. Pas du département, il n'y a pas de souci. Regarde, la villa, la mauvaise villa, celle qui est à Saint-Gilles, il va en boîte de nuit, il va faire la fête. C'est pour ça que tu as demandé à tous les fundis, les personnes de faire doua pour toi, pour avoir cette voiture, pour avoir ce permis, et après tu utilises ce bienfait dans le haram. Ça, c'est un exemple vraiment typique et extérieur qu'on peut constater. Maintenant, wafi anfusikum. Dans ce que nous avons en nous, nous devons voir comment est-ce que nous utilisons ces bienfaits. Le temps est un bienfait. La santé est un bienfait. Le temps libre, la possibilité de venir à la masjid. Al-amn wa amanahum min khawf. La sécurité, c'est un bienfait. Il y a des endroits où tu ne peux pas sortir pour aller prier. Là, on vient à Ramadan. On rentre, on sort, même si on sort d'ici 22h30, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de danger. Tous les jeunes, en fait, c'est toujours les dangers en général. Mais donc là, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Il y a des endroits où, une personne sort de sa maison, c'est parce qu'il arrive. En période de guerre, où il y a je ne sais quoi. C'est-à-dire, comment voulez-vous vivre spirituellement un mois béni s'il n'y a pas l'amn, il n'y a pas la sécurité. Tout ça, ce sont des bienfaits. Et le plus grand bienfait, c'est iman, la foi. Tirer profit de ce iman, qu'Allah nous ait choisi pour être le droit chemin. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Traduction exacte. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. Muslimun. Là, le terme muslimun, c'est pas uniquement muslim. Quand on dit muslim, même en anglais, on dit muslim aussi, c'est être musulman. Mais là, le mot, le sens profond de muslimun, c'est et ne mourrez qu'en parfaite, qu'en pleine soumission. C'est-à-dire que quand vous mourrez, faites en sorte. Pas faites en sorte, c'est-à-dire vous devez avoir atteint cette étape, ce cheminement vers Allah qui vous permet d'être en pleine soumission à lui. Que toute ta vie, tu t'es soumis à lui. C'est, la soumission, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est pas d'un coup de baguette magique, tu deviens soumis à Allah. Non, ça se construit étape par étape, situation par situation, jour après jour. Tu construis ta relation avec Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un, un serviteur qui est soumis à Allah Azza wa Jal. Quand on meurt, nous devons être soumis à Allah Azza wa Jal. Donc, Ibn Kathir dit « Ey, hafidhu ala l'islami fi hali sihatikum wa salamatikum. Litamutu alay » Ibn Kathir commente ce verset « Et ne mourrez qu'en pleine soumission. Restez ferme, protégez votre islam. » Hafidhu, restez ferme, restez accroché, protégez ce islam qu'Allah vous a accordé dans toutes les situations, surtout quand vous êtes en bonne santé, quand vous avez tous les bienfaits, mais restez ferme. Pas parce que tout va bien qu'on oublie Allah Azza wa Jal, non, c'est un combat de tous les jours. Vous savez, il est plus difficile, et ça paraît paradoxal, il est plus difficile de rester dans le droit chemin quand tout va bien que lorsqu'on est éprouvé. Quand tu es éprouvé, tu t'orientes vers Allah Azza wa Jal. Quand tu as un problème qui te mine, un problème qui est envahissant, soit ça te concerne, soit ça concerne un enfant ou ton couple ou ton travail, ben, tu vis dans une situation d'angoisse et à chaque instant tu demandes doua à Allah Azza wa Jal pour trouver la solution, pour qu'il envoie son aide. C'est-à-dire qu'il y a une connexion avec Allah. Alors que quand tout va bien, et là, ça c'est une maladie spirituelle chez certaines personnes, quand tout va bien, ils oublient Allah Azza wa Jal. Ils attendent d'avoir des problèmes pour revenir vers Allah. Donc là, ce qu'il faut, c'est dans les situations où tout va bien également, c'est-à-dire dans toutes les situations de la vie, protéger son islam. Hafidhu ala l'islami fi hali sihatikum wa salamatikum. Et en d'autres termes, on pourrait dire istaqimu alay. Restez ferme. Was'alullah at-tawfiq. Et demandons à Allah de nous accepter pour rester dans ce droit chemin. Et troisièmement, ijtahidu lidhalik. Que nous fassions des efforts pour rester dans le droit chemin. Il ne suffit pas de dire, oh Allah, guide-moi, garde-moi ce droit chemin, ya Allah, protège mes enfants contre des choses mauvaises, et ensuite on les expose à tout ce qui est mauvais. Ce n'est pas cohérent. Donc si on demande à Allah la guider, de nous garder dans le droit chemin, on a fait les efforts. un doua que nous devons faire régulièrement durant ce mois béni, c'est de demander à Allah Azza wa Jal premièrement de nous donner la possibilité de faire le maximum de bonnes actions et de nous éloigner de tout ce qui est haram durant ce mois. Que ya Allah, durant ce mois, que je ne déconne pas du tout, pas de bêtises, rien qui sort des limites. Et deuxième étape du doua, de me donner istiqama, fermeté pour rester dans cette lancée spirituelle, rester dans cette avancée spirituelle. Parce que le croyant intelligent, c'est celui qui va avancer Ramadan après Ramadan avec des acquis. Et ça, c'est un doua que nous devons faire régulièrement. Donc Ibn Kathir dit, protège cet islam, litamutu alayh, afin que nous puissions mourir avec ce islam. Parce qu'il dit que, selon la sunnah d'Allah, man 'asha 'ala shay'in mata 'alayh, celui qui vit avec dans une certaine situation, il meurt de cette situation. Il y a celui qui a passé toute sa vie, jamais il rate pas une prière, il rate pas un Ramadan, il est dans le dhikrullah. Normalement, c'est la sunnah d'Allah, quelqu'un qui vit avec un mode de vie particulier, il va mourir de cette situation. Alors que, donc paradoxalement, pas paradoxalement mais dans l'autre sens, une personne qui vit dans le fisc, dans le péché, il y a de fortes chances qu'elle meure également de péché. Personne qui ne pense qu'à faire la fête et qui ne pense jamais à Allah Azza wa Jal, on peut craindre que la personne meure dans le rafla et dans le péché. C'est pour ça qu'on a besoin de demander husnul khatima, une bonne fin et une mort dans le droit chemin, alors qu'on est dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Donc, man 'asha 'ala shay'in mata 'alayh, celui qui vit d'une certaine façon, normalement meurt de cette façon. وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ, et celui qui meurt dans une situation, il sera ressuscité dans cette situation. Je veux dire, Qiyama, il y a des gens qui, dès le moment où ils sont ressuscités, ils sont honorés. Celui qui est mort dans le dhikrullah, dans la lecture du Coran, ou dans, en accomplissant une bonne action, lors de la résurrection, il se réveille dans le même état spirituel. Alors que celui qui meurt dans le péché, qu'Allah nous protège, il est ressuscité dans l'état du péché. On a lu le, je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou bien, un des versets qui parle de l'intérêt que les personnes qui ont fait usage du riba, de l'intérêt, la yaqoumuna illa kama yaqoumul ladhi yatakhabbatuhu shaytan min al-mas. Ça, c'est le plus grand déshonneur que devant al-khalq, devant la création d'Allah Azza wa Jal, une personne est ressuscitée et les gens ressuscités le voient comme quelqu'un de possédé, parce que c'est la conséquence de l'utilisation de l'argent haram. Ce n'est pas là encore le châtiment, c'est la situation de laquelle elle est ressuscitée. Alors que d'autres personnes, dès les premières étapes, ils sont invités sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Chattani bayna hadha wa hadha. Différence entre cette personne qui, parce qu'elle a utilisé cet argent haram, même si de ce dunya, avec ses emprunts, elle vivait comme un prince, le jour de Qiyamak. À quoi ça sert? À quoi ça sert cette villa, ce château, ce palais, ces piscines et tout ça? Ça sert à quoi si le jour de Qiyamak, on est ressuscité de cette façon parce que l'argent était haram? Donc on a besoin vraiment de se reconcentrer sur les priorités. C'est vraiment la relation entre nos actions immédiates et l'au-delà. Et celui qui a su rester ferme sur son islam jusqu'à la fin, parce qu'il me dit man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhil al-jannah, celui qui veut être protégé de l'enfer et qui veut accéder au paradis, fal tudrikhu maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, que cette personne fasse en sorte que la mort lui arrive alors qu'il croit en Allah et qu'il croit au jour du jugement dernier. Ça doit être un doua que nous faisons tout le temps, que lorsque la mort arrive, que nous puissions lier le talqin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que nous mourrons avec la foi. Hada. Et le prophète alayhi salatu wassalam faisait des invocations pour mourir avec la foi, et ce sont des invocations qu'il nous a enseignées. On va terminer avec un récit qui nous donne encore une fois une approche des qualités de foi, cette fois-ci développée par les sahaba. Il y avait un sahaba parmi les ansar, les gens de Medina, qui étaient malades. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait rendu visite. Et le prophète l'avait rencontré, ya'uduhu fawafaqahu fi souq. Le prophète l'a rencontré dans le marché, il l'a salué, Il lui a demandé Kaifa anta ya fulan, comment est-ce que tu te portes par rapport à ces problèmes de santé. Qala bi khairin ya Rasulallah, le prophète d'Allah, je vais bien. Arjullah wa akhafu dhunubi. Bas. Arjullah wa akhafu dhunubi. Il dit que, ô prophète d'Allah, je me sens parfaitement bien. Et quand il dit je me sens parfaitement bien, ce n'est pas forcément en rapport avec son état de santé physique. Mais c'est-à-dire que même si, le prophète le rend visible parce qu'il est malade, mais même s'il sait qu'il a des problèmes de santé, mais il se sent bien intérieurement. Il se sent en paix avec lui-même. Et il sait qu'il est dans le vrai. Parce qu'il dit au prophète d'Allah, ça va très bien. Parce que dans mon cœur, Arjullah, j'ai l'espoir en Allah. Dans mon cœur, j'ai un espoir total, sans limite en mon Seigneur. Wa akhafu dhunubi. Et je ne suis obsédé que par une chose. La peur de mes péchés. Et le prophète, alayhi salat wa sallam, qala an-nabi alayhi salat wa sallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi hadha al-mawtin illa a'tahu Allah ma yarju. C'est-à-dire que lorsque ces deux qualités sont réunies dans le cœur d'un croyant, alors Allah azza wa jall lui accorde ce qu'il souhaite et Allah lui protège de la chose qui le fait le plus peur. Dit quand quelqu'un et cette qualité là, le sahaba, pourquoi il l'a dit? Pas ostentation? Non. Il l'a dit à qui? Il l'a dit au prophète d'Allah. Il ne l'aurait jamais dit à quelqu'un d'autre. C'est parce que c'est Nabiullah qu'il peut se livrer. Parce qu'il n'y avait pas d'ostentation avec le prophète d'Allah. Il dit, comment est mon état spirituel? Et celui qui a cet état d'esprit spirituel, qui dans son cœur en permanence, il a l'espoir en Allah. C'est-à-dire, tu attends quelque chose de ton Seigneur. Ça veut dire que tu as créé une relation qui est permanente avec Allah Azza wa Jal. Tu penses à ton Seigneur à chaque fois, tu lui demandes à chaque fois, et que tu penses à tes péchés. De nos jours, qu'est-ce qui nous obsède? Les fins du mois, les dettes, les problèmes de santé, et ainsi de suite. Ce sont les choses qui nous font le plus peur. Mais ce qui doit vraiment nous effrayer, ce sont nos péchés. Parce que mourir avec des péchés, ça c'est un problème. Être enterré avec ses péchés, ça c'est un problème. Alors qu'Allah Azza wa Jal donne tellement d'occasions pour nous faire pardonner nos péchés, mais celui qui en tire avec ses péchés, ça veut dire qu'il est ressuscité avec ses péchés. C'est-à-dire qu'il aura à répondre de ses péchés, jour de Qiyamah, et ça c'est une situation que nous ne voulons surtout pas vivre. Qu'Allah nous fasse des reproches pour des péchés, ça on ne veut pas vivre. Donc, essayons de développer les qualités de foi qu'on a citées, comme les cathés nous disent, la pensée permanente d'Allah Azza wa Jal, ne jamais oublier Allah. L'intention ferme de l'obéir en toutes circonstances, sans limite temporelle surtout, et de ne jamais le désobéir, et d'être toujours reconnaissant, de ne jamais faire preuve d'ingratitude. 3 points. Le 4e point, nuhafiz ala al-islam, qu'on protège cette foi, ce iman, même si tout va bien, mais on essaie de rester ferme, ça fait 4. 5e point, à travers l'histoire de ce sahaba, avoir toujours espoir en Allah, une relation permanente avec Allah Azza wa Jal, et craindre nos péchés, avoir la crainte de nos péchés par rapport à leurs conséquences. Ce seront là des signes de présence de iman. Qu'Allah nous accepte et qu'Allah nous donne la possibilité, durant ce mois béni, de trouver les qualités spirituelles intérieures et de les développer, et que ces qualités-là restent dans nos cœurs, que cela soit ancré et que cela nous permet d'avancer de façon paisible et nous permet d'avancer dans notre cheminement vers Allah Azza wa Jal de façon permanente. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.